Question assez classique pour commencer. Quoi de neuf à part un nouvel album?
Eh ben, beaucoup de fatigue, justement lié à cet album. Après, beaucoup de projets pour après, beaucoup de pistes, beaucoup de choses. Je pense à venir, parce que c'est vrai que un album, même si c'est énormément de travail, d'investissement, de fatigue, c'est aussi beaucoup d'expérience, beaucoup de remise en question. Donc c'est vrai que ça amène d'autres choses et je pense que ça va, enfin même déjà, tu vois, j'ai déjà eu des demandes d'orchestration pour d'autres groupes.
D'accord.
Donc c'est cool.
D'accord. Tu m'ouvres la boîte tout de suite, donc je vais la poser tout de suite. Tu disais donc gain en expérience. Est-ce que tu as des exemples de données sur le fait à quel point certaines choses sur Dark Running Light ont été facilitées par le fait que tu es fait avant The Great Light, que tu es fait avant d'autres albums et que tu as monté en expérience sur le domaine?
Bah, l'orchestre, l'enregistrement avec l'orchestre, là ça a été. Ça a roulé tout droit, c'était l'autoroute. Du fait justement de cette première expérience sur The Great Light, on a. Moi j'ai certainement été beaucoup plus précis dans ma façon d'écrire, j'ai été beaucoup plus rigoureux et plus direct dans la façon de préparer la session d'enregistrement, et c'est vrai que du coup ça s'est très très bien passé, ils ont fini avec une heure d'avance, sachant qu'on a, pris le temps de doubler certaines parties, de réfléchir à des nuances alternatives sur tel ou tel passage, parce qu'ils savaient aussi ce que je faisais. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai gagné en expérience vis-à-vis de mon travail en général, vis-à-vis d'un orchestre.
Surtout qu'on devine que quand voilà, tu as un orchestre, entre guillemets, tu as le compte à rebours de l'investissement financier que ça représente qui te limite dans les livres dont effectivement tu ne vas pas les leur prendre 3 jours de plus ou 8 heures de plus.
C'est ça. Donc, c'est vrai que là, ça a été vraiment mieux.
C'était les mêmes avec qui tu avais bossé précédemment?
Ouais.
D'accord. Donc, tu les connaissais, tu avais mieux intégré effectivement jusqu'à quel niveau ils avaient besoin d'avoir un plan de bataille entre guillemets très précis. Donc tu fais quoi? Tu leur envoies tes orchestrations toi programmées et après tu leur dis et après...
Alors, je leur envoie les partitions.
Partitions.
Ils enregistrent tout en lecture, ils font les répètes le jour même.
T'es là-bas ou t'es en visibilité vidéo ou...
Alors, ils proposent les deux, mais moi je préfère y aller.
D'accord.
Pour plusieurs raisons.
Ouais, Rhapsody of Fire, j'avais découvert pour la première fois, on pouvait faire ça par vidéo.
Oui. Bon, effectivement.
Okay. C'est un peu moins dispendieux parce que t'es pas
là-bas.
Il y a un manque, il y a un ressenti physique quoi, quand les mecs.
Moi j'aime être là-bas parce que déjà tu peux discuter de visu avec les mecs. Évidemment par Skype tu peux aussi, mais y a l'ambiance. Il y a l'excitation de on va y aller, ils vont jouer, il y a le son, t'en prends quand même plein la gueule toute la journée. Puis même quand tu vas dans la pièce où ils enregistrent, ce qui est quand même un petit plaisir.
Il y a un écho, il y a un
petit plaisir coupable de compositeur d'aller les écouter jouer tes propres morceaux, c'est quand même un truc extraordinaire. Après, tu peux. Voilà, j'aime bien aussi discuter avec. Leur équipe de production, avec l'ingé son, avec tout ça. Et je suis pas convaincu que en vidéoconférence tu puisses avoir autant de possibilités que en étant sur place, quoi.
Eux, ils vont donc interpréter les parties que tu leur as demandé que tu as composées. Ils ont besoin pour leur travail d'avoir à un moment ou un autre l'habillage métal.
Ils l'ont.
Et c'est important pour eux.
Ils l'ont dans le casque. Pas tout le temps, parce qu'il y a des fois, ils ont besoin juste d'avoir. Voilà, mais le chef, lui, il l'a quasi en permanence.
Sans les voix, d'accord.
Et du coup, c'est vrai qu'aussi, on fait certaines écoutes de contrôle en disant, est-ce qu'on peut écouter avec les autres de façon à voir si tu as tel ou tel choix artistique est cohérent par rapport à ce qu'on a déjà enregistré avec la guitare, basse, batterie.
Et pas forcément sur cet album-là ou même sur The Great Light, t'as eu des mauvaises surprises? T'as eu des trucs où t'as dû un peu te modifier ton plan de bataille, un peu pas en direct, mais ou non?
Sur The Great Light,
te suffit à te dire ça passera, pas de souci.
Sur The Great Light, j'ai eu pas des mauvaises surprises, mais il a fallu 2-3 jours avant, il a fallu que je revoie des trucs en dernière minute pour des questions de transposition purement enfin des histoires à la con. Le jour J, il s'est avéré que effectivement il y avait quelques notes, quelques passages qui auraient nécessité plus de temps de préparation et que on n'avait pas le temps, donc il a fallu prendre des décisions. Alors que là, cette fois, je leur ai envoyé les trucs un petit moment avant. Puis j'ai pas eu de nouvelles jusqu'à la veille du départ. Donc,
tu te dis pas de nouvelles, bonne nouvelle, quoi. Mais,
tu te dis pas de nouvelles, bonne nouvelle, mais même pas de retour, quoi. Donc j'ai envoyé un mail en disant ça va, oui, ça va. Bon, ok.
Mais parce que ils vont pas te dire c'est nul ton truc, quoi. Quel type d'échange tu peux avoir avec ces mecs? Toi tu joues comme ça, lui il joue comme ça, il s'en fout.
Si, en fait.
Ouais, t'arrives à te dire son truc, c'est là on sent bien, on sent pas.
En plus, ils se gênent pas pour te le dire.
D'accord.
C'est-à-dire que quand c'est pas bien ou c'est pas bon, ils vont te dire là non.
On peut dire, il y a quand même leur nom qui apparaît, l'orchestre.
Oui, bien sûr.
Et il peut dire, si c'est à chier, on peut dire c'est quand même l'orchestre machin de Prague, quoi.
Oui, mais on va dire dans le dialogue qu'il y a avec eux. S'il y a un truc mal écrit, déjà le chef il saute. Il tique. L'ingé son et les mecs de la prod ils te regardent, genre.
T'es sûr, quoi?
T'es sûr? Alors, t'es sûr de ton choix?
Mais quand tu dis on discute, c'est avec que avec le chef d'orchestre, ou t'as le premier violon qui dit ça, je le sens pas, ou t'as le bassiste qui fait je me suis.
Non, il y a le chef, l'ingénieur du son. Le producteur et son assistante.
Les musiciens eux-mêmes, ils font ce qu'on leur dit, quoi.
Les musiciens eux-mêmes, ils font ce qu'on leur dit. Après, justement, quand c'est pas, quand il y a un truc pas bien écrit ou pas bon, certains musiciens disent non, là ça va pas passer.
D'accord. Bon, on y reviendra un peu plus tard. Revenons quand même à cette partie-là.
Et du coup, tu vois, par exemple, du fait de la première expérience. Là, ça y a eu pas une note de changer.
Et c'est une journée.
Ouais.
D'accord. Ok, donc tu t'es déplacé à Prague et puis. Ouais, okay.
Et le lendemain, j'étais à Göteborg.
Ah, joli petit jour.
Ouais.
Pour Michael.
Ouais.
Michael. Ouais. C'est juste comme si on revient un tout petit peu sur The Great Lie. Si on prend toute la période.
Ouais.
Donc de la compo, l'enregistrement, la réception par le public, la tournée. Est-ce qu'il y a un souvenir ou un événement qui te remonte naturellement à l'esprit?
Sur The Great Lie?
Ouais, toute la période. La rencontre avec, je sais pas, un tel artiste, un truc, tu veux dire, dans X années, il y aura peut-être ça
Le jour où on a appris qu'on partait en tournée avec Symphony X.
D'accord.
On était sur la tournée Lives Eyes, on allait monter sur scène, je reçois un mail du manager sur mon téléphone et on savait qu'on avait la réponse ce jour-là. Il me met un truc genre rappelle-moi très vite. Bon, puis on était à 20 secondes de vraiment monter sur scène, l'intro était déjà lancée.
Et là, tu as besoin de savoir quand même tout de suite?
Non.
Ah non, tu dis je laisse passer
Je laisse passer mes 35 minutes de jeu, mais. J'avais un doute positif, ouais. Si tu veux. Je savais que si c'était non, il m'aurait dit
bon, c'est mort. Voilà. Écrit, ouais. Et next, quoi.
Et du coup, je fais le concert, je le rappelle, il me fait non, c'est bon, vous partez avec Symphony X. Et alors là,
c'est une espèce de pic de joie ou c'est une vision du vide. Enfin, c'est quoi qui domine? C'est une espèce de. Une explosion de. C'est positif ou négatif sur le moment?
Il y a une.
Là, tu fais face à. Bon, Lives Eyes, c'était pas moins sérieux, hein, je veux dire, c'était pas.
Oui.
Mais il monte encore d'un.
Bah oui. C'est. Un pic de joie et en même temps, c'est mélangé avec plein de sentiments, pas contradictoires, mais qui fusent dans tous les sens. Le fait que Symphony X. Je suis fan depuis que je suis gamin.
Ouais, puis c'est pas deux dates, quoi. C'est pas comment on fait deux dates en France.
Voilà.
Et là, vous englobez tout le truc, quoi.
C'est aussi toutes les années de travail qui t'amènent à ce jour-là où on te dit, voilà, tu pars avec eux sur une très grosse tournée.
Ta récompense, quoi, finalement.
Voilà. Et c'est aussi le résultat du travail d'équipe en groupe, parce que sur le terrain, on est quand même entre 8 et 10. Donc ça commence à faire beaucoup. Et donc, du coup, je suis allé l'annoncer aux autres et j'étais en larmes, clairement, hein, parce que ils étaient tous. Mais tu vois, toutes ces années de travail, voilà, puis voilà, après on a tous fêté ça et j'étais content.
J'ai découvert Symphonix Divine Wings of Tragedy parce qu'il y a CNR Music et j'ai acheté tout CNR Music, ils sortent le truc. Je prends une première claque parce que le premier titre, je l'arrête, je sais plus ce que c'est, tu prends une claque dans la tronche, je dis wesh, je sais pas si j'avais pas acheté le bon truc. Finalement tu rentres dedans et puis ça roule tout seul, donc Symphonix c'était une belle date. Justement, pour cette préparation de tournée là, comment on évite, alors moi ce que j'appelle, Christopher Johnson me pardonnera, mais un peu le syndrome Carillon. C'est-à-dire, on n'est que quelques musiciens et quelques chanteurs, et donc on tombe pas dans la reine du sample, et il faut qu'un chanteur fasse 50 voix alors qu'il n'en a fait qu'un rôle dans son truc. Comment t'évites ça ?
Ah bah tu l'évites pas. C'est-à-dire que, effectivement, il y a beaucoup de choses dans les samples. Il y a. Et après, voilà, il y a 4 chanteurs avec des voix polyvalentes. L'avantage, si tu veux, c'est que sur The Great Lie, Guillaume avait le rôle principal, donc ça faisait un peu le fil rouge. Mais c'est vrai que les filles, ça fait pas de chanter sur l'album. Donc,
le seul truc que tu peux agir, c'est sur ton choix de titre, finalement. Que tu vas,
ouais,
tu vas...
C'est ça. Ouais. Après, justement, fort de cette expérience, quand j'ai abordé la composition de Darkening Light, j'ai pensé à ce genre de problématique, ce qui fait que
il y a
systématiquement 4 types de voix quasiment sur tous les titres. D'accord. De façon à ce que les 4 chanteurs n'aient pas de problème, justement, de façon à ce qu'on évite justement ce syndrome-là.
Juste pour terminer sur cette période-là, tu as des anecdotes, ce sont des voix de secret sur justement la tournée commune avec Michael Romeo, avec Jason Rulo, avec Pinella, avec voilà. Parce que c'est toujours dangereux de rencontrer des mecs que tu admires. C'est, si c'est des fiffés connards, t'es un peu les boules.
Ouais.
Donc, tu sors de là en disant t'as vu ce que t'attendais.
Ils ont été très gentils avec nous. Moi, si une anecdote, c'est à Munich, on est tous allés à la maison de la bière manger une choucroute et c'était très rigolo parce que il y avait les en fait sans faire attention, le batteur s'est mis derrière le batteur, le bassiste derrière le bassiste, le clavier derrière le clavier, en fait on s'est retourné et on a fait ah ouais d'accord. c'était amusant le placement.
Et t'as pu avoir une des conversations particulières avec Pinella justement?
Très peu.
Entre guillemets, très pro à froid à l'américaine ou
non? Je pense qu'il est très réservé. C'est pas qu'il est pas fun, c'est que
il arrive pas, il t'embrasse.
Voilà, c'est ça. D'accord. Alors que clairement Russell Allen, beaucoup plus. On a fait une paire de fiesta avec lui ou Rouleau qui venait aussi de temps en temps avec nous, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup plus d'échanges avec Russell qu'avec Michael Pinella qui était beaucoup plus discret. Après ils ont été très sympas dans le sens où au Danemark il y a Jens Johansson qui est venu voir le concert. Le bassiste Michael Lepont voyait que j'osais pas aller lui parler, il m'a dit attends, je vais te le présenter, c'est un pote. Et du coup j'ai pu rencontrer Jens Johansson, je tremblais de partout, les mecs de mon groupe ils rigolaient, ils disaient ah fais-moi le malin là.
T'étais pas venu ici pour une promo Stratovarius où il y avait Johansson et Coty Pato?
Non,
je comprends bien, parce que je sais que tu avais été venu sur une autre promo. D'accord, mais oui, donc au moins c'est l'avantage de ça, c'est que c'est un petit monde quand même.
Bah voilà.
Et dernière question sur cet aspect-là, est-ce que en les voyant faire au quotidien, enfin voilà, pendant un certain nombre de, je sais pas, 20 jours ou,
oh non, dire, 40.
Ou 40 jours, on apprend des trucs?
Ouais.
On dit ah ouais, là je.
Déjà, on se prend une grosse leçon d'humilité, parce que les mecs ils sont.
Voilà. Carrés, ouais.
Carrés, c'est monstrueux, enfin c'est. C'est des mecs qui sont à un niveau, mais
c'est des machines, quoi.
C'est hallucinant. humilité aussi humaine, parce que les mecs ils se la racontent pas, alors que clairement ils éclatent tout le monde.
Ils en ont pas beaucoup qui peuvent être.
Bah ouais, là, là on est vraiment quasiment en haut de la pyramide, donc ils sont voilà, ils sont assez simples comme bons hommes, et donc du coup moi je prenais mon petit cours de piano tous les soirs, hein, clairement.
C'était important, tu les voyais tous les soirs?
Ouais, enfin quasiment, parce que après tu vois, dans le roulement des douches, de ouais. Manger, de
selon les salles, il y a des fois où tu peux, voilà, pas te permettre, parce que t'as des
obligations. Mais oui, un maximum, j'essayais de voir allez 3-4 titres
chaque fois,
parce que après oui, il y a aussi aller discuter avec les gens, il y a le merch,
il y a le relation publique,
voilà, c'est ça.
D'accord. Donc si enfin on arrive à Darkening Light, même si on l'a abordé à travers l'orchestre, 2-3 ans entre chaque sortie, c'est ton rythme naturel? Alors est-ce que tu pourrais aller plus vite, mais parce que pour des contraintes de financières, de créativité, etc., ou sinon c'est ton rythme qui te semble?
J'avoue bien, je me suis pas trop posé la question. L'album devait être livré au label à telle date, donc ça, on va dire, c'est quelque chose contractuel que je peux pas contourner. Donc je savais que c'est un rythme assez courant.
Ouais, mais ça c'est une négo avec eux, c'est pas eux qui vont te dire tout d'un coup, on sait pas d'où, 16 juin tu me livres ton disque.
Non, c'était prévu à la sortie de The Great Lie, ils nous ont dit
2-3 ans en avance, ils te disent le 16 juin 2019.
Non, mais en gros il faudra l'album à cette période là voilà.
Eux dans leur calage de sortie, ouais. Promo, machin, d'accord.
Sachant que moi ça me prend un an de travail, je savais que ça allait arriver vite, parce que entre
je finis la tournée,
sors l'album, tu fais la promo, tu sors l'album, tu pars en tournée et puis tu reviens, c'est parti.
Le fait que tu aies une date butoir, t'en as besoin entre guillemets pour toi, ou tu prendrais plus le temps si t'avais pas ce tout là?
Je prendrais beaucoup plus de temps, c'est-à-dire que moi j'étais quand même déjà assez fatigué en sortant des tournées, du clip, des remixes et tout ça. Donc quand il a fallu s'y mettre, j'ai un peu traîné la patte, parce que...
Si t'es cramé, même créativement, je sais pas si ça tombe, quoi.
Bah non, alors après c'est vrai que tout le monde me dit, oui, mais en même temps, et on te le souhaite, si à un moment tu finis chez Nuclear Blast et qu'ils te font tourner au taquet, ce sera ça, et tu composeras dans le bus, quoi.
Oui. Est-ce que d'ailleurs tu fais pas du tout, tu veux en tourner
Non.
Mais parce que tu n'étais pas capable, ou tu voulais en profiter, l'air de dire, donc...
En tournée, c'est moi qui fais souvent le tour manager pour le groupe, donc j'ai 600 000 trucs à penser. Dans tous les cas, c'est moi le référent, même si c'est un tour manager, donc je suis quand même obligé de rester connecté à tout ce qui se passe, on va dire, derrière. C'est vrai que ça me branche pas plus que ça de passer mes journées à noter des idées musicales pour plus tard. Je travaille mieux quand je suis dans chez moi, au calme, tranquille. Ça m'a donné des idées pour un potentiel prochain. Mais quand on a fait le mixage de l'album, en fait c'est à ce moment-là que j'ai finalisé toutes les parties de clavier, parce que je savais qu'en fonction de l'enregistrement de l'orchestre, des voix et tout machin, il faudrait des petits ajustements d'arrangement. Mmh. Donc je m'étais gardé ça pour la fin, sachant que il y avait déjà quasiment tout écrit, c'était du petit plus pour ajuster et rajouter une note par-ci, une note par-là. Donc je me suis installé dans une des cabines de prise de son où il y avait un super piano à queue. Je suis arrivé avec mes claviers, mon Mac, et j'avais le piano à côté, et là j'étais dans une ambiance qui a fait que naturellement j'ai composé 3 titres.
Donc quoi, l'ambiance est beaucoup, hein.
Bah oui, et je me suis dit trois titres en une semaine.
À ce rythme-là, quand on sortira tous les ans.
Ben voilà, c'est ça. Donc, je sais pas comment et quand je ferai un prochain album, mais dans tous les cas, ouais, je me suis dit, bah, peut-être que prendre 15 jours, aller s'enfermer au vert, au milieu des vignes, à Bordeaux, avec un superbe piano qui t'inspire, qui te donne envie de faire de la musique et tout ton petit matos pour faire tes bidules et tes zinzins, bah, ça peut être aussi une bonne solution de justement quand tu es en temps limité, de te dire bah, j'y vais et dans 15 jours il y a au moins des bases solides d'un album qui sont là quoi.
So Dark and Light, tu as utilisé des choses que tu avais à l'époque de The Great Lie ou tu es parti d'une feuille blanche?
Je suis parti d'une feuille blanche. C'est-à-dire que.
Et tu t'es imposé ces 15 là ou simplement tu mets ce que tu avais avant?
Non, je. Bah, c'est un peu comme pour The Great Lie et Between, c'est que. Et même From the Past, c'est que j'ai écrit mon histoire, que j'ai découpé en épisodes ou en scènes, qui m'ont donné le nombre de chansons, les personnages. Et en fonction de ça, je me suis dit, bah voilà, comment tu veux exploiter tel ou tel passage? Est-ce que tu veux en faire quelque chose de posé, calme, ou quelque chose de brutal? Sachant que je sais aussi que, en fonction de ce que j'écoute sur le moment, de ce que j'ai écouté, des concerts que je suis allé voir, je préfère, tu vois, mettre les compteurs à zéro quelque part et me dire, allez, on part de rien. Mais au moins, on n'est pas influencé par ce qui, au final, serait peut-être une fausse bonne idée d'il y a deux ans, tu vois.
D'accord. Alors, si je comprends bien ce que tu viens de nous dire, en termes de genèse de disque, finalement, tu gardes ta méthode que tu as depuis l'origine. Je travaille le concept, je découpe,
c'est ça.
Et après, je plaque dessus.
Quoi. Ouais, ouais.
Est-ce que, justement, par rapport au démo précédent, il y a eu... Tu as modifié ta façon de contacter ou d'aborder et de faire ton choix de guest?
Oui, forcément, ça a évolué parce que déjà, il y a les chanteurs de l'équipe live qui...
Ouais.
Oui, il y a forcément des choses qui ont évolué parce que les chanteurs de l'équipe live, ça va, c'est facile à... Voilà, et ça fait un tiers, rien que ça fait un tiers des guests.
Ouais.
Il y a Clémentine qui a été depuis le début dans le line-up. Maintenant, elle a dû se concentrer sur Vision of Atlantis et Cité d'Eden. Mais pareil, c'est facile à. Voilà, Michael Stanne, c'était un mail, ça dit de revenir. Oui, il n'avait pas écouté une note de l'album, mais il était partant.
Ça fait plaisir.
Voilà, voilà.
Parce que là, le petit nouveau, c'est quoi? C'est le grec, c'est notre ami.
Ouais, il y a Silvieu, Oyvind, Catherine Trottmann, mais pareil, elle, c'est la grande sœur d'une copine, donc.
Ce qu'on dit toujours, bon, dans les franco-français, grosso modo, tu t'en débrouilles, c'est entre guillemets la partie facile, même si parfois on a des peurs de surprise. Les compliqués, c'est les noms internationaux, quoi. Le norvégien, le suédois, le grec.
Ah oui, bah si, et puis Jeff Scott Soto, voilà, qui est le nouveau. Et
alors lui a tort ou raison, il a une image de méga mercenaire et donc grosso modo t'allonges le puis il fait quoi. Donc voilà, j'ai pas d'avis sur le passeport sur le cas et il a raison hein, mais et puis il a une voix tout c'est mais voilà, il y a eu des difficultés particulières ou des
non bah disons que et puis aussi moi donc je me suis envoyé un mail est-ce que tu veux participer à ton propre album? Oh, je sais pas et ça c'est un autre
débat,
un autre débat
avec toi-même tu te débrouilles.
Voilà. Donc évidemment, il y a des choses qui sont rendues plus faciles parce que maintenant, sans prétention aucune, Melted Space a quand même un bagage. Il y a plusieurs albums, il y a des tournées européennes, il y a de la visibilité qui fait que, justement, Jeff Scott Soto, malgré le fait qu'il ait effectivement cette image de mercenaire, qu'est-ce qu'il irait s'emmerder dans un projet.
Je sais pas d'où ça vient.
Voilà.
Où ça
donc, je pense que son manager a quand même étudié la question. Après, donc c'est plus facile d'aller contacter maintenant, surtout quand t'annonces Michael Stanne, Aileen, machin, truc, voilà. C'est beaucoup plus simple. Maintenant, vu qu'il y a quand même des récurrents, des gens qui reviennent, j'ai eu beaucoup moins de travail de démarchage vis-à-vis des chanteurs.
Ce que j'appelle l'effet aérien, quoi. C'est-à-dire, au début tu rames, mais normalement plus tu avances, plus moins tu devrais ramer.
Bah oui, c'est-à-dire que effectivement, le fait que sur The Great Lie, il y a eu et David Vincent, et Michael Stanne, et Attila, et Niklas, et machin, et Aileen, et Marie-Angela, et voilà, et Arjen Lucassen quand même, malgré tout.
Ça commence à faire du long, quoi.
Bah, ça commence à faire que quand tu annonces le projet. Après, j'ai eu quelques refus, mais pour des raisons d'agenda. Voilà, les chanteurs. Qui j'ai dit bon bah la prochaine fois hein, quand même parce que j'aime bien ce que tu fais mais oui c'est sûr que c'est beaucoup plus facile que quand j'ai démarché du Christine à l'époque
pour, sans donner de nom t'as essayé de taper dans le très je sais pas n'importe quoi enfin tu vois dans le niveau Rob Halford Bruce Dickinson ce genre de truc
non.
D'accord.
Non, j'ai...
c'est un truc que tu gardes à la tête ou à la tête ou ça fait pas partie spécialement du kiff.
Bah, disons que si tu veux, je veux pas non plus allonger du nom pour allonger du nom. C'est-à-dire que, oui, je vais pas mentir. Tu me dis, demain tu travailles avec James Hetfield. Oui, j'y vais, je saute à pieds joints. Et,
San Francisco direct.
Okay. Voilà, c'est ça, et je suis déjà parti. Mais après, est-ce que il y aurait le rôle qui lui irait bien, qui servirait...
toujours ça la priorité
pour moi. Ouais. C'est vraiment avoir la bonne voix pour le bon personnage.
Et alors remarque sans doute peut-être totalement débile, je m'attendais à ce qu'il y ait un mec de Symphonix et un mec de Mirat, ou tu vois, ou des mecs. Non, oui. J'ai eu quelque chose à faire, ou.
Alors Mirat, c'est vrai, il a une voix, ça a l'air une super voix, mais c'est vrai que quand il a été annoncé sur le Aerion, et Russell aussi, je me suis dit bon bah
on va éviter de faire trop
déjà que ça commence à se voir.
Non, bah, d'accord,
voilà, ils ont des voix super même monstrueuses, mais c'est vrai que je veux
pas trop filer le bâton pour se faire allumer, quoi.
Bah oui, c'est ça, enfin c'est que
bah tant pis pour Bruce, hein. Toujours moi le côté qui m'intéresse en plus donc de le côté enregistrement, c'est la mise en son. Donc t'as bossé avec Jean-Vier, on change pas l'équipe qui gagne, donc François Maxime pour le mixage et le mastering par
Alan Duchis.
Voilà. Pourquoi tu vas chercher un mec à New York pour te faire le mastering? Il y a une vraie valeur ajoutée?
C'est imposé par le label.
D'accord, c'est Century Records qui dit tu débrouilles mais avec lui.
Ouais.
Ce qui te va toi ou si c'est plus ça, tu t'en fous, enfin fou, non, tu veux le résultat final, mais c'est plus une contrainte ou un non?
Non, c'est comme ça. C'est tu vois, on a sur The Great Lie, on avait sollicité quelqu'un d'autre au départ parce qu'on avait l'album n'était pas encore signé chez eux. Et en fait, ils nous ont dit, bah écoutez, d'accord, mais sauf que nous, je pense pour des raisons de ligne artistique, nous on travaille avec un tel, donc on fera refaire le master. Ok. Il se trouve que Alan Duchis a vraiment proposé un truc intéressant, très typé musique de film, donc il avait complètement compris ce que je voulais faire. Après,
ça aurait été problématique si lui, il avait une vision totalement différente, et là, oui. Il va y avoir à faire trancher, et
voilà.
Ça peut être chaud par rapport à... Ouais, d'accord.
Mais là, tu vois, on a fait le mixage, on savait qu'il allait masteriser derrière, donc c'est vrai que c'est quelque part plutôt même tranquillisant de se dire, voilà, lui, il travaille comme ci, il travaille comme ça, le son, il le fait comme ci, comme ça, donc au mix, on va orienter de telle ou telle façon.
Et on va terminer par les aspects visuels. Donc de mémoire, de Great Lie, c'était Strychnine.
Ouais.
Qui l'a fait. Là, c'est Adrien Bousson.
Oui.
Quelle directive tu lui as donné?
Je ne lui en ai donné aucune. C'est-à-dire que.
Fais-moi une pochette pour Darkening Light, démerde-toi.
Non, je lui ai envoyé les démos, je lui ai envoyé l'histoire, mes notes, parce que j'ai fait un gros travail de bibliothèque. de recherche sur la cosmologie, les différentes légendes de la création dans les différentes cultures, pour justement obtenir ma propre légende qui tenait en quelques lignes. Mmh. Donc j'ai envoyé toutes les notes que j'avais prises, les démos, quelques impressions, c'est-à-dire que je lui ai dit, voilà, j'aimerais quelque chose, l'album est assez spatial, assez grandiose.
Il y a un côté écrasant du
infini. Voilà, c'est ça. Et du coup, il m'a proposé, il m'a fait une première. En fait, le visuel qui est sur l'album, c'est la première proposition qu'il m'a faite.
Bah, c'est cool.
Il m'a fait un crayonné rapide. Est-ce que ça te va ? Puis bah, écoute, ouais, c'est.
Banco.
C'est ça. Voilà. Le fait aussi que il y a cette espèce de portail gigantesque avec tous les points interconnectés entre eux, ça correspondait parfaitement à la vision que j'avais de justement comment fonctionne cet opéra, cette histoire qui est quand même relativement équilibrée. Les relations entre tous les personnages sont vraiment... Enfin, j'ai veillé à ce qu'elles soient équilibrées, justement comme je disais tout à l'heure, pour des raisons futures de live. Et donc ça collait parfaitement avec ce que je voulais faire, quoi.
Merci beaucoup.
Ben, merci à toi.
À bientôt.
À bientôt.